Week-end 91.9, on parle du sujet de l'heure autour de l'îlot.
16h05 en ce lundi 2 mars. Merci de s'intoniser le 91.9 Week-end Radio pour vous accompagner, vous divertir et vous informer aussi. Il y a eu beaucoup de dénouements dans l'histoire de l'Iran en fin de semaine. Il y a des impacts clairement qui seront sentis ici même au Québec, au Canada. C'est assez un dossier complexe en soi, là. Puis ce matin, on a eu une belle entrevue aussi dans Dallaire le matin avec Georges Mercier, qui est analyste politique et doctorant à Sciences Po Paris, donc pour nous dire justement quels seront les impacts, mais qu'est-ce qu'on sait qui a changé à cette heure-ci?
Gagne? Donc depuis ce moment-là, tu as dit le principal point qui change dans notre petite vie quotidienne, c'est le prix de l'essence. Ouais. Donc c'est certainement peut-être un peu égoïste là, de regarder ça de même aussi, mais c'est la réalité de notre quotidien. Donc ça, c'est ce qui a changé ce matin avec l'ouverture du prix du baril de pétrole qui est en augmentation et dans les dernières minutes également, donc le détroit d'Ormuz qui a été fermé à la circulation des navires. C'est 20% du pétrole mondial qui circule par là. Donc ça, c'est certainement la nouveauté. Ottawa a renforcé le soutien consulaire pour les 85 000 Canadiens présents au Moyen-Orient, parce que oui, ça part de l'Iran, mais ça s'est vraiment étendu à toute la région du Moyen-Orient. Il n'y a pas de vol vers Dubaï, vers les Émirats arabes unis avec Air Canada. Là, ça a tout été annulé pendant le prochain mois.
Mais d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait le gouvernement canadien qui disait si vous êtes Canadien dans le coin, on vous demande de revenir au pays. Ouais. C'est rare que le Canada fait ce genre de publication-là, ouais. Mais là, ça semblait être assez urgent. Là.
En étant partenaire des États-Unis dans ce dossier-là, en tout cas très précisément. Là, on avait donc un peu averti les Canadiens de ce qui se tramait dans la région. D'ailleurs, tu sais, Mark Carney qui a offert un appui inconditionnel donc aux États-Unis dans ce conflit, clairement se présente du côté de Donald Trump pour ça. Directeur du bureau de Québec à Tel Aviv qui a été rapatrié aussi et donc prix de pétrole. Mais c'était ce matin, justement, vous avez vu l'entrevue avec Georges Mercier et à la question, évidemment, donne quelques réponses, là, évidemment, étant un expert en situation géopolitique là-bas. Pourquoi c'est finalement samedi que les menaces et que le conflit a progressé de cette manière-là?
Bien, écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'on assiste à une guerre préventive. Les États-Unis et Israël ne répondent pas en ce moment, contrairement à ce qu'ils disent, à une menace imminente de l'Iran. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis pratiquement un demi-siècle, on a en Iran un régime théocratique islamiste, c'est-à-dire qui est gouverné par des religieux fondamentalistes. Et ce régime-là a trois objectifs. Mort à l'Amérique, mort à Israël, et aussi le contrôle d'à peu près toutes les parties de la vie des femmes iraniennes. Donc c'est un régime qui est fondamentalement opposé aux intérêts des États-Unis, aux intérêts d'Israël, puis j'ajouterais même aux intérêts du monde occidental plus libéral. Et là, ce qui s'est passé récemment, dans les dernières années, c'est que le régime a été sévèrement affaibli. Il y a eu des manifestations populaires monstres en Iran contre ce régime-là. Et qu'est-ce que le régime a fait? Il a massacré, selon certains rapports, jusqu'à 30 000 membres de sa propre population. Donc, il n'y a pas beaucoup de soutien populaire. Et dans ce contexte-là, les États-Unis et Israël se sont dit, on sent le sang, c'est le temps de frapper, parce que on comprend, si on ne frappe pas maintenant, le régime va se renforcer, va se reconsolider et il va être beaucoup moins vulnérable par la suite. Donc, c'est le moment d'y aller.
On a donné les derniers détails sur la fermeture du détroit d'Ormuz qui aurait donc un impact sur le prix du pétrole. Ce matin, ce n'était pas encore su et connu, mais déjà, il donnait des précisions sur l'impact que ça pourrait avoir.
Le problème avec le prix de l'essence, c'est qu'il est lié au prix du pétrole. Le marché du pétrole, c'est un marché qui est très sensible aux fluctuations, aux changements dans l'offre à l'international. Et le problème, c'est que l'Iran est très près d'un lieu géographique qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Et c'est à peu près 20% de la production mondiale de pétrole qui passe par là. Donc forcément, s'il y a moins de bateaux qui acheminent le pétrole vers les raffineries un peu partout sur la planète, le prix du pétrole va augmenter. Non seulement ça, l'autre problème, c'est que le Moyen-Orient, c'est une région qui produit beaucoup, beaucoup de pétrole. Et parmi les pays qui en produisent beaucoup, il y a l'Arabie Saoudite. Et là, les champs pétrolifères qui produisent du pétrole de l'Arabie Saoudite ont été attaqués par l'Iran. Donc si la production mondiale, elle diminue, forcément, éventuellement, le prix à la pompe, l'essence, le produit raffiné, va augmenter. Est-ce qu'on va le sentir tout de suite? Il faudra voir, mais on peut s'attendre, oui, à des hausses du prix à la pompe si ce conflit-là continue longtemps. Mais par contre, si le conflit ne dure pas longtemps, si dans une semaine, les États-Unis disent « c'est réglé, on a détruit ce qu'on voulait détruire », puis on a en Iran un « peut-être pas un nouveau régime, mais au moins des gens qui sont plus pragmatiques, plus qui ont plus envie de discuter avec les États-Unis, peut-être que là, non, la production va recommencer et on n'aura pas des hausses très, très importantes.
Alors, c'est la question, combien de temps ça va durer? Là, jusqu'ici, on dit que les États-Unis ont frappé 1250 cibles. Israël en a frappé 600. Alors, la durée du conflit, on peut s'attendre à quoi? Ce matin, la réponse est à peu près la même cet après-midi.
Ben, ça dépend des ambitions des États-Unis. Parce que s'ils se disent, nous, on limite notre job à détruire, par exemple, les usines qui produisent des missiles iraniens, à détruire les radars iraniens, leurs avions de chasse, leurs bateaux de combat. Puis une fois que tout ça est détruit, on considère qu'on a fait notre job. Alors là, oui, c'est réaliste que le conflit ne s'éternise pas, parce qu'on recommence, qu'on se retrouve pas avec une deuxième guerre d'Irak, où là, ça avait duré des années et des années. Mais si l'ambition des États-Unis et d'Israël, c'est vraiment de se débarrasser du régime. Puis là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que malgré le fait qu'ils ont tué beaucoup des hauts commandants iraniens, il reste encore un régime fonctionnel. Si leur ambition, c'est ça, alors ça demande une implication à potentiellement à plus long terme. Et là, ça pourrait durer, oui, 4, 5, 6, plusieurs mois. Donc, il faudra voir. La grande inconnue, c'est de quoi est-ce que Donald Trump est prêt à se satisfaire? Qu'est-ce qui va pouvoir lui faire dire qu'il a eu une victoire? Et s'il y a des ambitions plus petites, plus minimales, la victoire peut arriver plus vite que ses ambitions sont maximales.
Et le Canada s'est donc posté en allié des États-Unis dans ce conflit-là. Est-ce que ça nous met donc en guerre un peu avec l'Iran et ce régime?
Ben, au Canada, on n'est pas une cible militaire prioritaire. Puis pour rassurer nos auditeurs, le monsieur peut vous dire que l'Iran n'a pas de missile balistique capable de se rendre au Canada. Donc, il ne va pas avoir un missile iranien sur Ottawa ou sur Montréal. Cela étant dit, la raison pour laquelle on peut craindre que le conflit prenne de l'ampleur, c'est si les Iraniens répliquent, comme ils le font à partir de maintenant, de manière indiscriminée, qui commencent à frapper des bases américaines qui sont à leur portée dans des pays, notamment les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, mais s'ils commencent à frapper une base britannique ou une base française. Ouais. Alors là, peut-être que la Grande-Bretagne et la France vont se dire « on doit répliquer », donc ils embarqueraient dans le conflit. Et si ces pays-là embarquent dans le conflit, le Canada, qui est membre de l'OTAN, éventuellement devrait peut-être embarquer dans ce conflit-là. Donc il y a un vrai enjeu ici. Ce qu'on remarque jusqu'à maintenant, toutefois, là, c'est que les seuls qui veulent vraiment se battre, c'est les États-Unis et Israël. Et le Canada a beau faire une déclaration pour dire on appuie, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de chasseurs canadiens, d'avions de chasse qui s'en vont bombarder en Iran, le Canada n'est pas partie prenante dans le conflit. Donc on n'est pas en guerre, pour le dire comme ça.
Georges Mercier, analyste politique et doctorant à Sciences Po Paris. Tellement intéressant d'avoir quelqu'un qui est capable de vulgariser une situation aussi complexe, puis de savoir un peu comment ça peut nous affecter, nous, et comment le Canada va se positionner aussi. Donc, l'entrevue intégrale qui a été réalisée ce matin dans Dallaire le matin est disponible sur weekend.fm. De l'autre côté, on va parler avec Joanie, parce que peut-être que vous avez ça, vous, à la maison, un enfant qui est stické sur quelque chose. Puis, tu sais, on utilise l'expression « stiqué ». Ça peut être, je sais pas, votre enfant, lui, veut juste manger des pâtes au beurre.
C'est ça son trip.
Il y en a que ça va être d'être sur des tounes de Noël.
T'as-tu 45 minutes? Parce que la liste est longue.
Ben, c'est ça qu'on va aborder avec Joe, qui a réalisé justement en fin de semaine pourquoi elle subit la trame sonore d'Encanto depuis un an. Là, tu as eu ta réponse.
Exact.
Fait qu'on en reparle de l'autre côté de cette super chanson de Milky Chance, le duo allemand qui est chouchou ici sur le 91.9 depuis plusieurs années. Vous le savez, Stolen Dance, ça a été un gros succès. Puis, bien, ils nous proposent encore des chansons. Puis, c'est le fun parce que ça fit dans notre son. Camouflage, à l'instant sur Weekend.